Nous allons parler en ce jour de la rentrée de la sainteté telle que saint Bernard en a l'a exposée. Nous sommes tous destinés à la sainteté. Après le jugement dernier, il n'y aura plus que les saints et les autres. Donc nous devons être des saints. Mais est-ce par une réussite matérielle que l'on peut juger d'une réussite spirituelle? Après l'échec de la deuxième croisade qu'il avait prêchée sur les ordres du pape, saint Bernard fut accablé d'invectives. Pour sa défense, il affirma n'avoir cherché qu'à faire la volonté de Dieu sans autre but. Il disait « Le succès n'ajoute rien à la valeur morale d'un acte ». On devrait souvent s'en souvenir actuellement. Ses réflexions sur la conduite humaine l'amenèrent à écrire un traité sur le libre arbitre, discussion sur les rôles comparés de la grâce et de la volonté de l'homme. Il s'agit d'une discussion sans cesse ouverte que nous avons rencontrée avec Pélage du temps de saint Augustin et qui sera reprise avec Luther et les jansénistes. Quelle était l'opinion de saint Bernard à ce sujet du traité sur le libre arbitre? À 38 ans, saint Bernard avait confessé devant ses moines « Plus vous irez loin dans la vie, plus vous constaterez qu'une douce providence a eu part aux événements de votre existence. » La grâce a donc une importance primordiale, de même que la conservation de l'être est une création continue, ainsi Dieu ne cesse de se montrer pour nous attirer à lui, comme le dit saint Jean. Nul ne peut venir à moi, ni moi si mon Père ne m'a envoyé, si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire. Mais alors, si la grâce fait tout, le libre arbitre n'a rien à faire. Avant tout, il est certain que la récompense promise est disproportionnée avec nos mérites. Un prédicateur comparait notre cas à celui d'un homme réduit à la misère, dont la seule richesse était de savoir jouer aux échecs. Un riche propriétaire lui proposa de le faire vivre dans une belle aisance, à la seule condition de venir jouer aux échecs avec lui, quelques heures par semaine. Le contrat était certes inégal. Mais à partir du moment où il était conclu, c'est en toute justice que le malheureux se trouvait comblé. Dieu agit de la sorte avec nous, en nous récompensant bien au-delà de nos faibles mérites. Nos actions sont analogues au dessin que l'enfant fait pour la fête des mères, avec du papier et des crayons qui lui sont donnés. Mais il a su les manier avec amour, et souvent avec maladresse, mais n'importe, pour en faire un don réel, un acte d'amour. Après avoir donné à sa créature la liberté de conscience, Dieu nous demande de marcher dans le sens qu'il nous a montré. Il ne se contente pas de nous donner la direction une fois pour toutes, il nous accompagne par la grâce. Il est infiniment juste, donc il nous laisse une responsabilité dans nos actes, car il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de liberté. Les deux maîtres mots de notre vie spirituelle sont prier, car sans la grâce, nous ne pouvons rien, et veiller pour coopérer à cette grâce. Dieu ne sème jamais les ténèbres, comme le pensaient les anciens dans certains adages, comme le fameux « Quos vult perdere Jupiter dementat », c'est-à-dire « Jupiter rend fou ce qu'il veut perdre ». Non, Dieu ne nous rend pas fous. C'est notre orgueil qui trop souvent nous aveugle. Dieu nous éclaire, mais nous laisse la possibilité de fermer les yeux. C'est là notre drame. Le drame est que nous sommes divisés contre nous-mêmes. Comme le dit saint Paul dans son épître aux Romains, chapitre 7, « Je ne fais pas le bien que je voudrais et je fais le mal que je ne voudrais pas. » Le péché agit en nous comme une poix qui empêche l'âme de se déployer. Le mal a souvent pour nous un attrait indubitable et le bien nous coûte beaucoup d'efforts. Saint Bernard a dit « Nous ne sommes pas affranchis de la douleur à faire le bien, même lorsque cette douleur est un simple déplaisir. La liberté de vouloir le bien n'est pas la facilité de le faire. Toutefois, le souvenir des efforts laborieux que nous avons consentis rend notre bonheur plus grand, comme l'a ressenti sainte Monique après la conversion de son fils. Si la grâce nous rend bien voulants, c'est le libre arbitre qui nous rend voulants. Le Christ est venu pour nous mériter ce secours divin. Secours qu'il a acquis au prix de sa souffrance. Comme l'a écrit Pascal, j'ai versé telle goutte de sang pour toi. Dieu agit comme un père qui rachète son fils. L'esprit humain se trouble facilement en face de certaines passions et l'âme doit redoubler d'efforts, mais Dieu lui vient en aide. C'est le sens chrétien de la phrase célèbre « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Dieu vient à notre secours quand nous lui demandons. Franchement. Relisons les entretiens au cours duquel Jésus prend en main les âmes pour les élever. Des âmes relativement simples comme la Samaritaine ou de grands savants comme Nicodème. Deux exemples d'âmes dans la pénombre, devenues d'ardents apôtres. Il faut aussi citer l'entretien avec saint Pierre après la résurrection. Saint Pierre avait cédé à la crainte avant le chant du coq. L'absolution finale du Christ est toute de douceur. Par trois fois, le Christ lui a demandé « Pierre, m'aimes-tu ? » Les deux premières fois en employant le verbe grec qui a rapport à l'amour dans sa plénitude. La troisième fois, celui de la réalité de tous les jours. La réponse de Saint-Pierre est la touchante expression d'une affection sans réserve. « Seigneur, vous savez tout, vous savez bien que je vous aime. » C'est une prière que nous pouvons faire nous-mêmes quand un examen de conscience nous a fait voir notre misère. La vie éternelle est un don gratuit, comme la grâce. La volonté humaine acquiesce et participe à cette grande œuvre. Ce sera son honneur éternel. Il faut être fidèle à la grâce qui ne nous manque jamais, être le bon champ sur lequel la semence prospère. Ainsi, nous pourrons dire avec saint Paul, « La grâce de Dieu n'a pas été vide en moi. » La grâce agit sur l'âme comme l'ange en face de la Vierge Marie. Il a annoncé la grande nouvelle, a attendu le consentement de celle qui est choisie. L'œuvre de l'incarnation ne commence que lorsque la Sainte Vierge a prononcé son fiat. Il faut toutefois éviter de penser que la réussite de notre vie se mesure à nos succès aux yeux du monde. Saint Bernard disait souvent « Le succès n'ajoute rien à la valeur morale d'un acte ». Les exemples sont multiples. Nous en avons vu, nous avons vu l'échec de la deuxième croisade. Saint Jérôme, dans sa vieillesse, a vu son monde s'écrouler. Sur son lit de mort le 20 août 430, Saint Augustin appelait à combattre les barbares qui bientôt prirent sa ville. Et Sainte Jeanne d'Arc a été brûlée. Grégoire VII est mort en exil. Saint François de Sales a pu reconquérir le Chablais, mais cet évêque de Genève n'a pu en chasser Calvin. Quant à Saint Bernard, il a vécu des disputes profondes au sein de l'Église et de son fils bien-aimé. Eugène III fut chassé du siège pontifical. Son fils spirituel, bien sûr. La Sainte Vierge avait prévenu Sainte Bernadette, « Je ne vous promets pas le bonheur en ce monde, mais dans l'autre. Ce n'est que le jour du jugement que sera glorifiée notre valeur profonde. En attendant, attachons-nous simplement à faire les choses ordinaires, avec un soin extraordinaire, comme le disait Saint Jean Bernans. À fleurir, comme le disait Jacques, quoi, c'était Saint Thérèse d'Enfant Jésus, moi, dit Saint François de Sales, peu importe, a vécu à fleurir là où Dieu nous a plantés. Voilà, en cette période de rentrée, voilà une bonne résolution pour toute l'année. Je vous souhaite un bon automne qui s'annonce très, très beau au point de vue temps, et puis à la prochaine fois.